Chapitre 18. Marie-Lune. Alix, Zizo et Sabi jouaient dans la chambre de la reine. C'était dimanche, un jour sans cours. Zizo s'entraînait avec un beau imaginaire, mimant des positions de combat censées prendre de vitesse son adversaire, qui faisait exactement les mêmes gestes que lui, en inversé, dans le reflet du grand miroir ovale. De temps en temps, il reculait sur la moquette pourpre de la chambre où Sabi, allongée par terre, avait étalé une série de croquis représentant tous les héros de la guerre de Troie, Achille et ses amis. Rien que des garçons, cheveux bouclés et muscles apparents sous leurs petites tuniques. Alix, debout sur son grand lit, regardait le jour gris par la fenêtre.
« Fais gaffe, Cro-Magnon !»
cria soudain Sabi en repoussant Zizo qui reculait vers ses portraits.
« Ton talon va écraser mon Achillou ! Oh, c'est pas la place qui manque dans la chambre de la reine, alors va jouer ailleurs avec ta massue invisible !»
Alix, toujours perdue dans ses pensées, continuait de fixer la pluie froide dehors.
« Vivement que je ne sois plus reine, » finit-elle par lancer d'une voix mélancolique. « J'en peux plus de ces appartements, de ce luxe, de ces dorures et de ces lits à pompons. »
Pourquoi Marie-Lune a-t-elle décidé d'offrir tout ça à celle qui est élue reine? Un élu ne devrait avoir rien de plus que les autres, ne serait-ce que pour ne rien regretter quand un autre est élu à sa place.
Sabi posa un bisou sur chacun des garçons dessinés.
« On va squatter où ? » demanda-t-elle, « quand tu ne seras plus reine ?» Elle étala quelques nouveaux portraits. « C'est que j'ai encore Nestor, Ajax et Patrocle à dessiner. Va même falloir agrandir les murs, majesté !»
Zizo s'était arrêté de gesticuler et s'était assis sur le lit, au bord du grand édredon rouge.
« Je vais demander au conseil de voter pour que tous les enfants puissent venir habiter ici, »
lâcha tout à coup Alix.
Sabi sauta à pieds joints sur le lit, s'enfonçant dans l'édredon, puis rebondit plusieurs fois sur l'épais matelas.
« Prums !» cria Sabi. « Dag pour venir habiter chez toi. Je prends la chambre avec le trampoline !»
Alix la regarda avec indulgence. « Je parlais des enfants de la tour Eiffel. » précisa-t-elle. « Des enfants qui meurent dehors. » La reine tourna la tête pour observer par la fenêtre la brume glaciale. Sabi demeura un instant silencieuse, comme vexée de n'avoir pas compris, avant de se reprendre en fixant Zizo.
« Il y en a des mignons dans ta tour ? Pas comme toi, je veux dire. Des grands et baraqués ?»
Zizo mima un geste avec ses poignets, comme s'il faisait tournoyer son beau imaginaire en direction de Sabi.
On est tous plus beaux que tes dieux grecs dans le tipi. Tu verrais mon copain Agnel, il a les épaules aussi larges que les ailes déployées d'un aigle. Alors, si tu veux que je te présente, sois pas méchante.
Je suis pas méchante, protesta Sabi.
Si, t'es vexée parce que t'as pas été retenue parmi les trois championnes du pavillon des singes.
Par tradition, c'était juste avant la veillée du sanctuaire, c'est-à-dire ce jour-là, que le délégué de chaque pavillon désignait ses trois champions pour le tournoi de l'étoile, qui se déroulerait exactement 3 mois plus tard pour fêter la fin de l'hiver. Isalis avait choisi ses deux élèves préférés, Olympe et Minerva, pour représenter les singes, ainsi que Donatello, un garçon prétentieux qui se prenait pour un peintre parce que 3 poils lui poussaient au bout du menton. D'après Sabi, il aurait mieux fait de se prendre pour un pinceau. Elle s'effondra plus encore sur l'édredon, bras en croix et jambes de coton, comme si elle avait été brusquement poignardée.
« Oh, par Mama Luna, quel cata ! Moi qui rêvais depuis toute petite d'avoir une belle médaille dorée autour de mon cou !»
Elle éclata de rire. Sabi était sûrement la seule du château à se moquer à ce point du tournoi. Zizo prit un air faussement détaché et sourit lui aussi, mais une image le hantait. Celle des 3 médailles gagnées par Alix l'année précédente, rangée dans un petit coffre au fond de son armoire, qu'elle n'ouvrait presque jamais. Quelque chose, irrésistiblement, l'attirait dans cette histoire de tournoi, de champion, d'épreuves à franchir et de gloire pour celui qui triomphait. Il avait appris ce matin-là qu'Orlan, Pastor et Moebia, 3 des plus grosses têtes du château, avaient été désignés pour les savants. On attendait d'une seconde à l'autre le nom des champions du pavillon des soldats. Le délégué Jean d'Arc irait directement annoncer la nouvelle à chacun des 3 enfants choisis. Depuis le réveil, Zizo occupait son temps comme il le pouvait, nerveux, anxieux, attendant de voir entrer Jean d'Arc dans les appartements de la reine pour lui apporter la bonne nouvelle.
Il espérait, secrètement mais si intensément, être désigné. Au vu de ses résultats lors des entraînements, il aurait été injuste qu'il ne le soit pas. Même Jean d'Arc devait le reconnaître, Zizo était le plus doué, un beau entre les mains. Le plus rapide aussi, sachant faire preuve d'intuition, d'anticipation. Malgré ses progrès en combat, ou peut-être à cause d'eux, les provocations de Novak, d'Elios et de quelques autres enfants soldats comme Django et Idris continuaient dès que les délégués avaient le dos tourné. Cris de souris, dents de rongeurs, mimées toutes babines retroussées, insultes dans son dos.
On va te découper en morceaux, petit rat, puis on te donnera à Honora. On ne mange pas de viande, mais on fera une exception pour toi.
Ces attaques renforçaient encore sa motivation. Si Jean d'Arc était objectif, s'il passait outre le fait qu'il ne soit pas vraiment un enfant du château, il devrait inscrire le nom de Zizo parmi ceux des trois champions. Plus Zizo y réfléchissait, et plus il y croyait. L'imaginait. Lui, l'enfant du tipi, désigné, encouragé par les enfants du château. Quel symbole magnifique ce serait. Des pas résonnèrent dans le couloir des appartements royaux. Jean d'Arc? Le cœur de Zizo battait à tout rompre. Ce fut Lunella qui entra. La jumelle de Solario était aussi pâle que la blouse blanche qu'elle portait. Jamais d'habitude elle n'oubliait de la retirer en quittant le pavillon des savants. Alix l'interrogea aussitôt, inquiète.
« Il est arrivé quelque chose à Solario? Il est... »«
Non, non, »
répondit vivement Lunella, retrouvant un peu de couleur.
« Il va bien, je le sens, mais... »«
Mais ?»«
Mais ils ont fait une découverte. » Une découverte terrible. Je ressens son inquiétude. Je ressens une menace aussi. Une menace qui...
Lunella n'eut pas le temps de terminer sa phrase. Des cris de joie retentissaient dans la cour intérieure, sous la pyramide. Les trois filles et Zizo se précipitèrent dans le couloir pour observer les enfants qui chantaient et riaient. Un fin rayon de lumière s'était faufilé entre les nuages gris et se répandait dans le château. Soudain passé... de sombre à joyeux, alors qu'un arc-en-ciel se dessinait derrière la paroi de verre. Une trentaine d'élèves soldats formaient un cercle et frappaient le sol avec leurs bows, alors qu'au centre de la ronde, Novak, Elios et Diana dansaient. Jean d'Arc se tenait un peu en retrait, raide, les mains croisées dans le dos, mais souriant tout de même, comme si les trois danseurs au milieu du cercle se partageaient déjà les 5 médailles du tournoi de l'étoile à accrocher autour de leur cou. Car le beau Novak, Elios, son ami crâneur, et la grande et belle Diana, étaient les trois champions désignés par le dernier pavillon. Zizo avait compris. Les trois représentants des trois pavillons avaient été choisis, et ils n'en faisaient pas partie. Il laissa les enfants soldats tout à leur joie et retourna dans la chambre d'Alix, traînant les pieds, sans même chercher à cacher sa déception.
Qu'est-ce que tu croyais ? Se força-t-il à raisonner pour se consoler. Que l'un des délégués allait désigner un petit sauvage, un barbare, pour les représenter.
Sabie et Alix le suivirent, silencieuses. Sabie comprit que ce n'était pas le moment de se moquer de Zizo. Plus tard, elle essaierait de trouver une blague pour lui faire comprendre que ce n'était pas si grave. Alix simplement prit la main de Zizo.
Il y a encore une, commença-t-elle à expliquer. Le bruit assourdissant d'une sirène recouvrit la fin de sa phrase. C'était la première fois que Zizo entendait un vacarme aussi violent. Il colla ses mains sur ses oreilles.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Marie-Lune veut nous parler !»
cria Alix.
« Pourquoi ?»«
On n'en sait rien. Ça arrive parfois, une ou deux fois par an. Dans ce cas, il faut tout arrêter et aller l'écouter dans la rotonde. »
Sabie ramassa rapidement ses petits portraits de héros grecs tout en grognant.
Une convocation de Marie-Lune, la veille de la veillée du sanctuaire, ça n'annonce rien de bon.
Tous les enfants du château étaient réunis dans la rotonde d'Apollon. À l'exception d'Augénor, assis devant le premier rang dans son fauteuil, au pied de l'écran, ils étaient répartis sur des sièges, tout pavillon mélangé. Zizo, Sabie et Alix s'installèrent sur les dernières chaises libres dans le fond de la pièce ronde. La sirène cessa soudain et, dans la seconde suivante, le visage de Marie-Lune, jusqu'alors fixe sur l'écran géant, s'anima.
« Mes enfants !»
Marie-Lune était une femme avec un joli visage rond encadré d'épais cheveux noirs et frisés.
On ne voyait que son visage, son cou et ses épaules. Mais on devinait qu'il s'agissait d'une femme de corpulence assez forte, telle les femmes des harems dans les tableaux de la galerie des orientalistes. D'ordinaire, pour les cours, elle était souriante, calme et sûre d'elle. Tout de suite, les enfants remarquèrent la différence avec leur professeur habituel. Son visage était fatigué. Ses yeux, d'habitude rapides et scrutateurs, comme s'il surveillait chaque enfant de la classe, étaient fixes et rougis, comme si elle avait longuement pleuré. Elle paraissait beaucoup plus vieille que sur les autres vidéos. Elle toussa avant de continuer. Une toux longue et sèche, tellement déchirante qu'elle semblait pouvoir en crever l'écran. Enfin, la voix tremblante de Marie-Lune reprit.
Mes enfants, ce message est le dernier que je vais enregistrer. Pendant toutes ces années, j'en ai enregistré pour vous des milliers, des messages pour fixer les lois et les règles de ce château, des messages nécessaires à votre éducation, pour vous apprendre à écrire, à lire, à compter, à comprendre, à savoir, la géographie, l'histoire, les sciences, les arts. Oui, mes enfants. J'ai passé des milliers d'heures à parler seul devant une caméra et à programmer ces films pour que pendant toutes ces années, jour après jour, mois après mois, vous puissiez les visionner comme si j'étais là, comme si j'étais encore là. Mais celui-ci est le dernier.
Marie-Lune toussa encore. Les enfants s'agitaient avec nervosité sur leurs sièges, crispaient leurs mains sur leurs accoudoirs.
Vous aurez 12 ans et 6 mois quand vous écouterez ce message que j'enregistre en puisant dans mes dernières forces. Je l'ai programmé pour la veille du 21 décembre. 12 ans et 6 mois, c'est plus du double de l'âge que vous avez aujourd'hui. À mes yeux, vous n'êtes encore que des bébés alors que tous, face à moi qui me regardez, êtes devenus de petits hommes, de petites femmes. C'est mon plus grand regret en vous quittant. Je ne vous verrai pas grandir.
Marie-Lune parut faire un grand effort pour retrouver un regard d'institutrice attentive, pour repousser la fatigue et observer les enfants de part et d'autre des murs circulaires de la rotonde.
Mes enfants, je vous connais tous depuis que vous êtes bébés. Je vous connais tous par votre prénom, et vous tous, alors que je suis encore vivante et parle à cette caméra, me connaissez, m'appelez maman, nounou, Marie, Lulu. Vous avez chacun un surnom pour moi, un surnom que vous oublierez. Bientôt vous ne ferez plus la différence entre votre nounou qui vous bordait et vous embrassait en vous serrant dans ses bras, et cette femme qui, sur vos écrans, vous assomme de cours toute la journée, vous donne des ordres et vous fait la morale. Je ne serai plus pour vous qu'une image barbante et autoritaire.
Ce n'est pas grave. Je vous fais confiance. Vous avez été éduqué pour cela, depuis que vous êtes né. Je sais que vous serez sage, suffisamment sage pour suivre mes conseils quand je ne serai plus là.
Marie-Lune tenta d'exprimer sa sévérité habituelle à travers son regard, mais il était brouillé de larmes.
Plusieurs enfants, surtout dans le pavillon des singes, pleuraient eux aussi.
Ne me décevez pas. Il faudra vous occuper de vous et du monde qui vous entoure, comme je vous l'ai appris.
Elle toussa.
D'ailleurs, si 6 ans après vous avoir laissé seul, vous êtes là à m'écouter dans la rotonde, c'est que vous avez respecté les règles. C'est que vous avez été digne de ma confiance. Vous avez dû surmonter bien des épreuves. Cela a dû être difficile d'obéir à des écrans, même si je vous y avais préparé pendant des années. Oui, vous avez dû surmonter des épreuves terribles. Et la plus difficile est pourtant devant vous.
Elle rassembla ce qui lui restait d'énergie. Sa voix tremblante reprit enfin cette assurance que les enfants lui connaissaient. Une simple voix dont on ne discutait pas les décisions.
Vous avez 12 ans maintenant. Vous êtes presque adulte. Du moins, c'est mon pari. J'ai pensé qu'à 12 ans, vous seriez assez grand pour vous débrouiller seul. Vraiment seul, cette fois. J'emploie le mot « Paris », mais en fait, je n'ai pas d'autre choix. Je suis la dernière des adultes vivantes sur cette terre, depuis de longs mois, pour quelques jours à peine. Elle s'arrêta et regarda droit devant elle, baissant juste un peu les yeux. Son regard croisait celui d'Eugénor sur son fauteuil, plus près de l'écran que tous les autres enfants. On aurait pu jurer que Marie-Lune le voyait. Même si je suis la seule grande personne dont vous vous souvenez, vous ne devrez jamais oublier que d'autres adultes, beaucoup d'autres adultes, dont certains étaient très malades, dont beaucoup n'avaient plus que quelques jours, quelques mois à vivre, ont coopéré, ensemble, jusqu'à leur dernier souffle, pour cet unique projet, que les bébés du château survivent. Que les bébés soient éduqués, que les bébés connaissent ce monde qui va disparaître, qu'ils en soient fiers et qu'ils aient la force, l'intelligence et les connaissances pour en bâtir un nouveau. Pas un plus beau, comme on dit souvent dans les livres. Ce monde d'avant n'était pas si mal, vous savez. Mais en bâtir un autre, celui qui vous ressemblera. Marie-Lune ferma un instant les yeux. Oui, beaucoup d'adultes ont placé tout leur espoir dans ce projet, toute leur imagination dans cette organisation du château, toute leur énergie dans cette technologie, jusqu'au soleil de fer au-dessus de vos têtes, pour vous protéger. Elle marqua un court silence. Beaucoup d'énergie, oui, mais comme celle des hommes, cette énergie n'est pas inépuisable. Et nous ne disposions que de peu de temps pour la stocker, pour tout penser. Nous avons dû agir dans l'urgence. Nous avons fait de notre mieux, mes enfants, pour vous passer le relais. Nous avons tout misé sur vous, sur vos 12 premières années. Ne l'oubliez jamais. Marie-Lune, cette fois, laissa ses larmes couler. Aucun enfant ne put retenir ses pleurs. Toute la rotonde d'Apollon semblait noyée par le même torrent d'émotions. Au revoir, mes enfants. Quand vous écouterez ce message, je serai morte depuis plus de 6 ans. Gardez-moi dans un coin de vos têtes. Et surtout, après avoir écouté ce dernier message, ne cherchez pas à me retrouver. Je pense très fort à chacun de vous. Je vous aime tous. Comme aurait pu vous aimer chacune de vos mamans. Elle toussa encore, mit la main devant sa bouche tout en se levant, puis sortit de l'écran. L'image se figea sur la chaise que Marie-Lune avait laissée vide. Zizo, au fond de la rotonde, écoutait le concert de sanglots. À l'inverse des autres enfants, il levait les yeux et observait l'étrange peinture recouvrant toute la coupole du plafond. Un homme qui tombait du ciel dans un nuage de plumes après avoir presque touché le soleil. Alix serrait fort sa main. Sabi tamponnait ses yeux avec un mouchoir trempé. Était-il le seul à ne pas pleurer? Était-il le seul à s'interroger? Il repensait aux mots de Marie-Lune. « Vous me voyez pour la dernière fois. Pourquoi ?» Certes, il n'y avait pas cours le lendemain, le jour du sanctuaire était férié, mais les cours reprenaient après-demain et le visage de Marie-Lune s'afficherait à nouveau sur les écrans des 3 pavillons. Petit à petit, la rotonde d'Apollon se vida. Les 3 délégués, Lio, Isalis et Jeanne d'Arc, parlaient entre eux, entourant Eugénor comme s'ils partageaient un secret. « Un secret ?» se demanda Zizo, « que seul Alix parmi les 5 membres du conseil ignorait ?» Il avait l'impression qu'après cette vidéo, plus rien ne serait jamais comme avant dans le château. Et pourtant, Marie-Lune n'avait rien dit, rien révélé qu'il ne savait déjà, sinon qu'il ne fallait pas la chercher. Était-ce l'occasion pour lui de retourner au tipi, d'en faire la demande au conseil, ou de s'enfuir, puisqu'il restait un étranger ici? Marie-Lune n'était ni sa nounou, ni sa maman. Il n'avait pas pleuré. Il était un enfant différent,
On le lui avait fait comprendre. Il n'avait pas été choisi pour le tournoi de l'étoile. Devait-il à nouveau réclamer sa liberté au conseil du château? Ou tenter de s'échapper? À bien y réfléchir, il y avait une solution plus simple. Attendre le lendemain soir, la veillée du sanctuaire. Il s'y rendrait en procession avec les enfants du château et repartirait avec les enfants du tipi. Dans le sanctuaire, personne ne pourrait le lui interdire. Personne ne pourrait lever un beau sur lui. Les ordres de Marie-Lune étaient clairs. Aucune violence entre enfants n'était tolérable dans la cathédrale. Demain, personne ne pourrait l'empêcher de rentrer chez lui.